Pascal, bonjour.
Bonjour Luc.
Comment vas-tu?
Ah, très très bien. Belle journée ensoleillée, je suis content que la tempête soit derrière.
Oui, ça aurait été complexe de faire l'émission aujourd'hui dans la tempête. Un livre, une biographie. D'abord, comment est arrivée l'idée de dire on va faire une biographie? Est-ce qu'il y avait eu des approches au fil des années?
Oui, dans les 15 dernières années, je dirais les 20 dernières années, j'avais eu 3 offres raisonnables. Mais pour les gens qui sont au courant un peu de mon histoire ou qui ont vu l'émission que j'ai faite avec Denis Lévesque, savent que mon père a eu une vie en deux actes, une vie en deux parties. La première qui a été vraiment exécrable à cause de problèmes de consommation. Et la deuxième partie de sa vie qui a été formidable. C'est devenu, un coup que mon père a réglé ses problèmes, il est devenu un être... L'absence de drogue et d'alcool et tout ça lui ont permis de devenir l'homme qu'il était au fond de lui, dans le fond, un homme extraordinaire, sympathique, que tout le monde aimait, mes musiciens, mon équipe, mes amis, ma famille. Et j'aurais aimé avoir un papa comme ça tout le long de ma vie, mais finalement, je l'ai eu que à la moitié de ma vie. Et avant ça, bien, mon père, évidemment, ne voulait pas qu'on parle de la première partie de sa vie. Je le comprends aussi. Alors, par respect pour lui, eh bien, j'ai attendu qu'il ne soit plus là. Mon père est décédé il y a 2 ans. Et comme je suis une personne publique et que j'avais beaucoup de choses à raconter et que, comme disait ma mère, mes détracteurs, parfois, qui étaient durs envers moi, ma mère disait, s'ils savaient ce par quoi tu as passé, ce que tu as traversé, tu sais, moi, je rencontrais des gens qui me disaient « Ah, oh, toi, Charles Abel, t'es chanceux, tu t'arranges bien, t'as gagné la loto, la BM de l'année, la grosse maison, toi, t'es chanceux, tout va bien pour toi. » Et j'avais le goût de leur dire « Bonhomme, si tu savais d'où je viens, ce que j'ai dû traverser pour me rendre jusqu'à aujourd'hui. » On dit parfois qu'on commence en bas de l'échelle. Dans mon cas, on a creusé un trou, on a mis l'échelle dedans. T'sais. Alors, et j'ai dit « Quand si un jour tu lis mon histoire, tu auras peut-être une autre opinion de moi. » Et c'est ce qui m'a décidé d'écrire le livre.
Est-ce que ça a été dur, repasser par tout ça? Parce qu'évidemment, on a souvent l'impression que c'est réglé, qu'on a fait la paix avec ça, qu'on l'a oublié.
Ouais.
Mais dans ce cas-ci, c'est beaucoup des blessures d'enfance. Et souvent, les blessures d'enfance sont là, même à 60 ans. C'est pas réglé.
Bien, c'est ce qu'on croit. On croit que c'est enfoui, que c'est loin, puis que tout est oublié. Et je me suis rendu compte qu'en ouvrant certaines parties de ma vie, en ouvrant le coffret, si on veut, devant le journaliste qui a écrit le livre, là, je me suis surpris à pleurer à quelques reprises. Et même avec Denis Lévesque, aussitôt qu'on touche à l'enfance, aussitôt qu'on touche à l'enfant que j'ai été, eh bien là, ça remonte. T'sais. Puis j'ai trouvé ça difficile. D'ailleurs, Luc, depuis que mon livre est sorti, je ne l'ai pas lu parce qu'il est trop difficile pour moi de relire certains passages. Mais, et les bouts drôles, parce que c'est pas juste un livre qui est triste, il y a des bouts cocasses, eh bien, je les connais. Alors, j'ai pas relu le livre, mais ma mère l'a lu et elle en a fait une indigestion dans le sens que elle a dit, je pensais jamais que le journaliste dirait tout ce que je lui ai raconté parce que j'ai voulu qu'un journaliste écrive le livre à ma place. J'avais peur que les gens pensent que j'exagère, même qu'à la rigueur, je mente ou que j'exagère certains faits. Donc, un journaliste de Radio-Canada qui a la rigueur d'un journaliste, lui est allé interviewer plein de gens autour de moi, dont ma mère. Il est arrivé avec le magnétophone devant elle, sur la table, et maman a décidé de tout raconter. Et quand on écrit un livre, je pense que, par respect pour les lecteurs et les lectrices, on se doit de dire les vraies choses. Et si tu me le permets, Luc, on n'a pas voulu l'écrire dans le livre, mais j'ai le droit de le raconter en entrevue. Il m'est arrivé de lire au moins 2 biographies dans lesquelles il y avait des faussetés, carrément des mensonges. Puis je me disais, moi, si un jour j'écrivais ma vie, mon histoire, je dirais la vérité parce qu'on dit les vraies choses, on n'écrit pas de livre, à mon avis. Par exemple, j'étais dans la revue de Gilda. J'ai travaillé avec Gilda, je la connaissais bien. Et Gilda, jusqu'à la fin de ses jours, jusqu'à quelques mois avant de mourir, il a toujours parlé de son fils, Yvan. Mais ce n'est pas son fils. Mais il tenait toujours à garder ce mensonge-là. C'était son amoureux. C'était un jeune coiffeur de Québec qui s'appelait Irénée. Il ne s'appelait pas Yvan. C'est mon habilleur à moi qui l'a présenté à Gilda. Alors, on est au courant, nous, dans le domaine artistique, que Yvan n'était pas son fils. Mais il parle toujours, tout au long de son livre, il parle de son fils et tout ça. Bon, je trouvais que c'est un manque de respect envers les lecteurs, les lectrices. J'ai été le pianiste d'Alice Robbie pendant des années. Et puis, bon, Alice, des fois, à beurrer épais, comme on dit. Un jour, je me rappelle, elle parlait avec un de mes amis, puis elle lui dit tout bonnement comme ça, elle dit « Vous apprendrez, monsieur, vous saurez que vous parlez à une femme qui possède la moitié du Québec en terrain. » Tu sais, bon, ouais. Je veux dire, ça fait... ça me rend très riche. Alors, on se rend compte que Alice disait plein de choses. Ben, elle ne savait pas qu'aujourd'hui, il y aurait Internet et puis qu'on serait capable de vérifier certaines choses. Ouais. Il y a eu 3 biographies décrites sur Alice. Et la troisième a été écrite par un journaliste, Jean Beaunoyer, de la presse.
Oui, oui, oui.
Voilà, mais lui, il s'est rendu à Las Vegas, il s'est rendu au studio MGM, il s'est rendu dans les hôpitaux où est-ce qu'elle était censée...
Pour aller contre-vérifier tout ça.
Contre-vérifier, puis il s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas là, tu sais. Alors, donc tout ça, moi, quand je lisais les histoires, les biographies de ces artistes-là avec lesquels j'avais travaillé, je savais un peu ce qui était vrai, ce qui était faux, ce qui était exagéré. Puis je me suis dit, Luc, moi, si j'écris un livre, ce ne sera pas ça. Je voulais pas. Je vais dire les vraies choses ou on ne les dit pas. Donc, il a fallu que je parle de ma vie privée. Et de parler de sa vie privée devant des centaines de milliers de personnes à la télévision, ce n'est pas évident. Parler de nos choses personnelles, ça ne l'est pas. Mais c'est ça, écrire un livre. On dit les choses, on ne les dit pas. Puis aujourd'hui, ça me fait du bien. Comme ça me fait du bien d'avoir dit à M. Paul Arcand ou à Denis Lévesque mon statut social. Et aujourd'hui, ben, c'est avec fierté que je présente mon copain. Mais avant, j'en parle avec émotion, parce qu'avant, je n'aurais pas pu le faire. Avant, je me cachais, j'avais honte, je ne voulais pas décevoir les gens. Vous savez, j'ai fait 51 émissions de télévision avec Sœur Angèle. J'ai une partie de mon public qui est très croyant, pratiquant, puis je ne voulais pas les décevoir, je ne voulais pas... c'est comme toi, Luc, tu fais une émission, tu ne veux pas décevoir les gens, tu veux, au contraire, tu veux leur plaire. Donc, tu ne ferais rien qui pourrait les décevoir. Donc, je cachais ma vie privée. Aujourd'hui, mon compagnon est avec moi, puis je suis heureux de le présenter. Alors, ça change beaucoup de choses, écrire un livre.
et ça vient avec des témoignages des gens, j'imagine, parce que faire un coming out à 60 ans,
oui.
Y en a beaucoup, il y en a plein qui ont gardé ce côté-là, secret de leur vie, qui encore aujourd'hui... Oui. Osent pas en parler, de peur d'être mal reçus par leurs amis, par leurs parents qui sont toujours vivants et qui pensent qu'ils accepteraient pas ce statut social-là. Dans ton cas, tu as eu une femme aussi auparavant. Donc, est-ce que c'est difficile de dire « enfin, là, je le dis » ou c'est une libération?
Non, c'était difficile à cause de justement de ne pas créer une déception auprès des gens. On ne veut pas décevoir, surtout un artiste, hein, on veut plaire, on essaie de toujours bien s'habiller, de présenter des beaux spectacles, de faire des albums que les gens vont aimer. On a comme cet instinct ou ce réflexe de plaire et de dire nos petits défauts, peut-être qu'on se dirait, on a peur de décevoir. Et puis, finalement, je n'ai reçu aucun message homophobe. Au contraire, j'ai reçu des centaines de courriels et je les lis tous par hasard. Au fait, je ne permets pas à mon équipe de les lire pour moi. Je suis un artiste qui lit chacun de mes courriels, de mes lettres, et je réponds personnellement. Des fois, j'accuse un retard de 3-4 mois, mais encore une fois, par respect pour les gens qui m'écrivent. Et les témoignages que j'ai reçus, avoir su, je l'aurais fait avant.
Donc, est-ce qu'il y a un regret de ne pas l'avoir fait avant?
Oui, moi, oui, effectivement.
Et là, c'est avec fierté, donc, que
oui,
tu le fais?
Ah oui, avec fierté. Donc, ça, mais je suis ce que je suis. J'essaie d'être la meilleure personne possible, et à tous les jours, j'essaie comme le bon vin de me bonifier. Mais en parlant de vin, moi, je prends pas d'alcool. Tu sais, papa, il le fait pour moi. J'ai jamais pris de drogue. Je pense qu'il a bu mon verre et le sien.
Ouais, pour deux.
Oui,
ouais.
C'est ça, il a bu pour deux et pour trois. Et j'ai jamais consommé de drogue. J'ai jamais fumé la cigarette. Mais mais j'écoutais une entrevue l'autre jour avec Michel Barrette, le comédien, et qui m'a fait rire parce qu'il disait que malheureusement, le vin fait partie des bonnes choses de la vie et que lui était allergique au vin. Il disait qu'après 3-4 bouteilles, il avait mal au cœur, il avait mal à la tête. J'ai trouvé ça drôle.
T'as attendu que ton père décède pour raconter ce bout-là de ta vie, ton père qui était alcoolique, violent, avec ta mère aussi, mais ta mère est toujours vivante. Est-ce que c'était difficile de dire « on va lancer ça et les gens sauront ce que mon père a fait à ma mère » et qu'elle va revivre ça aussi?
Bien, le journaliste est allé la voir et maman a décidé de tout raconter. Également, on parle beaucoup de moments dans le livre et c'est pour ça que j'ai écrit la préface de mon livre en lisant mon livre, vous allez peut-être penser que je déteste mon père, mais c'est pas le cas du tout. J'ai détesté ce que la boisson et l'alcool ont fait de lui. Mais mon père, dans le fond, je sais que ces êtres-là qui boivent, qui sont aux prises avec des problèmes de consommation, que dans le fond, tout au fond d'eux-mêmes, c'est des bonnes personnes. La science a prouvé qu'au départ, au fond de nous, on est bon. On vient au monde bon. Et c'est parfois des problèmes de la vie qui nous changent. Et si j'ai décidé d'en parler aussi à propos de mon père, c'est pour donner espoir à des gens qui sont justement en problème de consommation. Il y a moyen de s'en sortir. Et si vous saviez quel être extraordinaire vous allez devenir. J'ai fait 3 tournées en Inde. Et une des tournées, j'ai donné tous les profits. Tous les profits. J'ai pas gardé un sou noir. À 3 organismes. À un orphelinat de jeunes filles, un orphelinat de jeunes garçons et à un organisme pour des personnes qui ont des problèmes comme mon père a eu. Je suis allé rencontrer ces messieurs-là, c'était la plupart, c'était des messieurs. Je leur ai tous donné la main, tout le monde pleurait. Et je leur ai dit, je suis la preuve vivante devant vous, que vous pouvez vous en sortir. Si vous avez vu mon père qui était dans la même condition que vous et qui est devenu un être extraordinaire, je vous le dis, ça vaut la peine. C'est un gros effort, c'est un effort surhumain parfois, mais je vous le dis, ça vaut la peine. Ce que vous allez gagner en retour. Mon père faisait du ski nautique avec moi. J'ai même partagé la scène avec mon père en Floride. On a fait un numéro père-fils. Mon père jouait de l'harmonica. Il n'avait jamais joué avec un orchestre, avec des violons et tout ça. Moi, j'avais les larmes aux yeux chaque fois que j'accompagnais mon père. Et ce dont je vous parle, on peut le voir sur Internet, sur YouTube. Vous tapez Richard Abel, Claude Abel. Et vous allez voir ce numéro-là qu'on faisait en Floride. Mon père avait une ovation debout. Je prenais mon père dans mes bras. On saluait. Et pour une fois, je faisais pleurer les hommes. D'habitude, c'est les femmes que je fais pleurer, des fois par émotion, par la beauté de la musique. Mais là, les hommes venaient me voir et me disaient, on aimerait avoir cette relation-là. J'aimerais avoir cette relation-là avec mon fils. Et vous savez, M. Abel, mon fils vient me voir à Noël, à Fête des Pères, dans ma fête. Je le vois 3 fois par année. Mais de voir ça, un numéro père-fils, puis de voir votre complicité, les hommes partaient à pleurer. Alors, tu sais, j'ai tout vécu ces belles choses-là avec mon père, comme si nous avions des années à rattraper.
Lui as-tu pardonné?
Ah, oui. Maman n'a pas pu le faire. Elle n'était même pas là au funérailles. Elle s'est dit, je ne suis pas capable. C'est allé trop loin entre mon père et ma mère. C'est ma mère qui a mangé les coups et papa était vraiment violent avec.
Toi, tu protégeais ton frère, c'est ce que j'ai compris.
Je protégeais mon petit frère quand les choses arrivaient. Et moi, j'ai dû tourner la page. C'est un peu ça. J'ai un peu tourné la page. Mon père ne nous a pas abusés. Il ne nous a pas vraiment battus. Mon père, pendant peut-être quelques mois, il a voulu jouer au père avec moi. Et à ce moment-là, un père donnait la fessée ou avec une strap, c'était la façon d'élever un enfant. Il l'a fait quelques mois dans le but de bien faire. C'était pas un homme cruel envers les enfants. Je donne pas les défauts qu'il n'avait pas là. Alors ça a pas duré. Et puis on peut pas dire qu'on était violentés. C'est juste qu'il était pas là. Et à ma première communion, ma première confirmation, il y avait pas de père. Et quand il était là, puis qu'il était violent envers maman, je trouvais ça atroce. T'sais. Et puis jusqu'au jour où j'étais en train de donner un spectacle, dans mes premiers spectacles au début de ma carrière. Ma mère s'était réfugiée dans un centre de femmes battues. Et ça faisait un an et demi qu'elle était cachée. Je ne savais même pas où elle était. Les femmes qui se cachent dans des endroits comme ça n'ont pas le droit de dire à leurs enfants où elles sont.
Non, effectivement.
Parce que le père peut faire parler les enfants à un moment donné et aller faire de la violence dans ces endroits-là. Et ma mère me dit par téléphone qu'elle va assister à mon spectacle. Je suis bien content de la revoir. Et à la fin de la première partie, j'étais dans une église à Montréal, l'église Sainte-Gemma, je m'en rappellerai toujours. Et à la fin de la première partie, il y a mon père qui entre sous dans l'église avec une carabine pour tirer maman. Alors, c'est des choses comme ça qu'on en livre. Et puis, ça a été la dernière chose. Ça, rendu là, ma façon de réagir, au lieu de l'appeler puis de l'engueuler, puis j'ai décidé de le renier. Alors, mon père m'appelait le lendemain quand il faisait des gaffes comme ça. Le lendemain, il pleurait, puis bon. Et puis là, je réponds au téléphone, il dit, Richard, il dit, c'est ton père. Et c'était pas prémédité, j'avais même pas pensé, c'était un réflexe que j'ai eu. J'ai dit, je m'excuse, monsieur, j'ai dit, moi, j'ai plus de père. Et c'est ça qui l'a atteint. Ça a été la vapeur a été renversée. Il dit, je le sais que tu m'en veux, des affaires. J'ai dit, monsieur, je dois vous laisser, je vais vous tromper le numéro de téléphone, j'ai plus de père. Puis j'ai raccroché. Et par la suite, il a essayé de rentrer en contact avec moi, puis je le vouvoyais, comme si c'était un étranger. C'était. Pour moi, je l'avais coupé, là. J'ai dit, là, rentrer avec une carabine dans une église, là, j'ai dit, là, vraiment, t'as dépassé les bornes. Et là, il a décidé de consulter. Puis, tu sais, j'ai vu mon père rentrer à Hippolyte Lafontaine. Là. Je l'ai vu avec une jaquette, là, où il y avait les fesses. Mm-hmm. Puis, il était avec les fous. Puis, c'était affreux. Là. Je l'ai ramassé chez lui. Il avait arrêté de manger. Là. Il y a vraiment eu un moment... Tu sais, je l'ai ramassé dans des ordures chez lui. L'ambulance est arrivée, puis... Il avait arrêté de manger, il avait été là, il était vraiment détruit, là, puis on l'entre à l'hôpital, et puis il a fait un séjour à Hippolyte, puis après ça, tranquillement, et ça a été dur, très, très dur, mais il s'en est sorti. Et puis à la fin, c'était, j'en parle avec beaucoup d'amour. Moi, j'étais avec mon père jusqu'à son dernier souffle à l'hôpital. Il est décédé d'un cancer du poumon, d'une maladie tellement horrible, surtout lorsqu'on se bat contre elle. Et puis, je le tenais par la main jusqu'au dernier souffle. Puis, c'est la première fois que je vivais cette expérience-là. Et ça change la perspective de la vie. Il ne faut pas la gaspiller. Il ne faut, faut pas rien prendre pour acquis. Et ça nous donne des leçons. Puis, mon père et moi, on s'est quittés en bons termes. On s'est quittés. Papa, tu l'as fait l'effort. Puis, mon père était placé dans un orphelinat. C'est difficile de le juger. Des enfants laissés à eux-mêmes dans un orphelinat, ça... Tu sais, ça développe... je sais pas, ils sont pas encadrés, puis ils sortent de là, puis ils sont pas, ils ont pas de père, puis ça. Puis, tu sais, j'ai été porté à le juger très sévèrement, puis aujourd'hui, avec la vie m'a appris qu'il y a une part qui est de sa faute, mais une grande part aussi qui est peut-être pas de la sienne. Et puis, aujourd'hui, au lieu de juger, il faut essayer de comprendre. Et puis, voilà.